sous la terre rouge.
Sous la terre rouge.
Les graines de la relève.
Les graines de la relève.
Manaon, bonjour à tous. À Antananarivo, la capitale de Madagascar, courage aux piétons. Les trottoirs sont envahis par les marchands ambulants. Voilà le premier métier qui saute aux yeux ici. Mais les étudiants du QEJ ont découvert bien d'autres facettes du travail sur l'île. Des reportages réalisés en partenariat avec les étudiants de l'IEP de Madagascar. Alors bienvenue à tous dans notre émission « Sous la terre rouge, les graines de la relève ». Sur le terrain, nous avons tendu notre micro à ceux qui font et feront l'île. Vous allez rencontrer les habitants de Madagascar bien décidés à utiliser le potentiel de leur pays. Pour cet épisode, travail à tout prix, nos reporters ont cherché à savoir comment les Malgaches gagnent leur vie. Jordan Musica, bonjour.
Salama Clotilde Manaon, bonjour à tous. Ensemble dans cette émission, nous allons parler du monde du travail à Madagascar. Le travail a différents visages, ça va du pêcheur artisanal au jeune employé dans la télécommunication. Il a différentes formes aussi, le travail déclaré ou les entreprises informelles. Et enfin, nous verrons le développement. Est-ce qu'il viendra de l'Orient ? Aujourd'hui, la Chine investit en masse ici à Madagascar. Elle bouscule le marché du travail. À nos côtés aujourd'hui pour en parler, Tsur Razafin Pahanana. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 26 ans et vous êtes entrepreneur. Vous avez créé l'an dernier un incubateur social pour aider de jeunes entreprises à se développer. On y reviendra dans quelques instants. Et on commence cette émission sur les bords du canal du Mozambique parce que Madagascar, c'est d'abord une île dans l'océan Indien. C'est 25 millions d'habitants et 5000 km de côte. Sur la côte ouest, nos reporters Juliette Buchez et Valsu Rakutwarson étaient à Murundave, la capitale régionale et la ville de la pêche. Avec ses poissons, ses crabes, ses crevettes, les richesses sont nombreuses. Elles font vivre une grande partie de la population. Mais le problème, c'est que ces ressources s'amenuisent et ce sont les pêcheurs les premiers qui en pâtissent.
Sur la plage de Nosiken à Murundave, le soleil commence à décliner. Les pirogues des pêcheurs se dessinent à l'horizon. Elles vont bientôt rentrer avec leur prise du jour. Jackie n'a pas pris la mer aujourd'hui. Il arpente la plage à la recherche de touristes, les bras chargés de petites pirogues sculptées.
Je remarque qu'il y a moins de poissons qu'avant. Moi, je vends ces petites pirogues. Pourtant, je suis aussi pêcheur. C'est parce que ça ne marche pas tellement. Et du coup, on est obligé de faire deux choses en même temps. Parce que si on pêche et qu'on ne récolte rien, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'il y a plus de touristes, on en profite un peu.
Les pirogues à voile gagnent la plage. Des femmes rejoignent les embarcations pour libérer les poissons des filets ou en négocier le prix. Joseph exhibe sa plus belle prise du jour, une raie de 9 kilos. Il espère la vendre 3000 ariars le kilo, un peu moins d'un euro. Une marchande en négocie vivement le prix et repart finalement sans la bête.
Les pêcheurs deviennent très nombreux. Le prix du poisson baisse. Pourtant, le prix devrait monter parce que le coût de la vie augmente. Alors, comment peut-on vivre? Il faut que je vende un kilo de poisson pour acheter 600 grammes de riz.
Les pêcheurs sont de plus en plus nombreux à Murundave. Ils viennent de l'intérieur des terres où on ne trouve plus de travail ou d'autres villes côtières où les ressources sont diminuées. En plus de la pression démographique, s'ajoute un problème de matériel. Certains pêcheurs utilisent des filets interdits qui piègent des poissons toujours plus petits. L'organisation environnementale WWF s'est implantée dans la région en 2012. Pour améliorer les choses, Eli Todimanan, représentant de l'ONG dans la région, mise sur une pêche plus durable, avec par exemple des réserves de pêche.
Il y a des mises en place des espaces délimités par les pêcheurs même parce que ces produits halieutiques-là ont besoin de se renouveler et quelquefois il faut laisser du temps pour se reproduire, pour avoir encore plus de production.
Dans les villages qu'elle encadre, l'association a également appris de nouvelles techniques aux habitants et leur a fourni de nouveaux filets aux normes. Kival, petit village entre mer et mer.
Parce que si on pêche et qu'on ne récolte rien, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'il y a plus de touristes, on en profite un peu.
Dans les villages qu'elle encadre, l'association a également appris de nouvelles techniques aux habitants et leur a fourni de nouveaux filets aux normes. Kival, petit village entre mer et mangrove à une heure de pirogue de Murundave, a bénéficié de ce programme. Louise, femme de pêcheur, constate des améliorations depuis la mise en place des réserves, mais cela reste insuffisant.
De nos jours, la pêche diminue. Elle diminue vraiment. Avant, quelqu'un qui pêchait arrivait à avoir de très très gros poissons. Mais aujourd'hui, on les trouve très loin, parfois à 2 km d'ici, là où il y a les gros bateaux.
Et pour Louise, l'avenir des plus jeunes ne doit pas forcément être dans la pêche.
J'aimerais surtout que mes enfants étudient. Même s'ils savent pêcher, même si c'est le métier que nous avons hérité de nos ancêtres, j'aimerais qu'ils apprennent autre chose pour qu'ils puissent faire d'autres métiers.
Certains ont effectivement essayé de faire autre chose, comme Nine. Ce pêcheur de 19 ans était parti faire des études, mais il est revenu à Kival à l'âge de 14 ans.
J'ai étudié, j'ai été en classe de 3e en 2012, et puis je suis venu en vacances ici. Souvent, quand on étudie, on ne trouve pas d'argent, donc je suis venu ici pour pêcher. J'ai gagné un peu d'argent, et voilà, je suis resté.
Et il n'est pas le seul à être ainsi revenu. Car tout le monde ne peut pas se payer des études et la pêche permet de s'assurer un revenu au quotidien, même si les ressources s'épuisent. D'après WWF, les quantités pêchées par pirogue dans cette zone ont été divisées par 3 ces dernières années.
Et c'était un reportage de Juliette Buchez avec Valsou Rakoutou-Arsan.
On quitte désormais la côte pour revenir à Antananarive et je vous propose une pause musicale avec le groupe Mika et Davis. Leur morceau, Tsujan, raconte l'exode rural, ces jeunes qui quittent leur campagne pour chercher du travail en ville.
Sio Razafin Pahanan, vous êtes avec nous pour cette émission consacrée à l'emploi. Vous, vous avez créé une entreprise il y a un an et demi. Elle s'appelle Incubon. C'est un incubateur social, le premier dans le pays. Vous aidez en fait de jeunes entreprises à développer leur business. Mais le but est aussi et surtout social. Vous pouvez nous donner un exemple d'une entreprise que vous accompagnez en ce moment ?
Alors, prendre un exemple de la vingtaine d'entreprises qu'on a accompagnées depuis janvier 2016. Je vais prendre celle qui nous parle le plus. C'est une entreprise qui s'appelle Sameva. Cette entreprise produit des petits tote bags en lambawan. Le lambawan est le tissu traditionnel malgache. Et ces petits tote bags en lambawan-là aident des mères célibataires de la ville de Diego Suarez à se réinsérer socialement. Et il faut savoir en fait que ces mères célibataires-là étaient vraiment des personnes qui étaient mises à l'écart de la société. Et c'est par le travail et la dignité, grâce à ce produit-là, que ces mères-là sont de nouveau aujourd'hui acceptées dans la société.
Donc vous avez permis de les insérer dans la société, comme vous dites, c'est ça le côté social.
C'est ça le côté social. La philosophie d'une entreprise sociale, c'est qu'au-delà même du bénéfice, comme toute entreprise, et de la division des dividendes par exemple, il s'agit d'impacter mieux, d'impacter plus, socialement, sociétalement ou environnementalement parlant.
Vous l'avez dit, une entreprise, c'est l'entreprise que vous avez créée. Vous, vous êtes jeune, vous avez 26 ans. Vous avez d'abord travaillé dans le privé, vous aviez un emploi stable qui vous permettait de gagner très bien votre vie. Alors pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure ?
Gagner très bien sa vie ne suffit plus aujourd'hui, je pense. À Madagascar, il faut qu'il y ait des gens qui prennent des risques. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes sont dans cette optique d'essayer d'avoir une certaine stabilité. Sauf que la stabilité, qu'on prône à tout va, fait en sorte que le pays tout entier stagne. Aujourd'hui, la stabilité des jeunes est en parallèle avec la stagnation du pays. C'est-à-dire que ce pays-là, il faut que les jeunes bougent pour que ce pays bouge. Tant qu'on reste dans cet esprit un esprit de confort, on n'arrivera jamais à faire bouger les choses à Madagascar.
Mais écoutez, Tsur Razafin Pahanan, je vous propose de continuer cette interview un peu plus tard. Je vous propose d'écouter le reportage de nos journalistes Maxime Noche et Valinsua Rakutwarson. Ils ont rencontré des jeunes qui, comme vous, se sont lancés dans l'aventure de l'entreprise. C'était ici à Antananarive et à 200 km de là à Farat Siou.
Jenny a rendez-vous dans le quartier 67 hectares. Son rêve, c'est de créer son entreprise de livraison de repas à domicile. Aujourd'hui, elle rencontre des futurs fournisseurs. Ils vont lui fabriquer des étuis pour les couverts de ses clients.
Donc là, c'est les étuis que vous aviez demandé.
D'accord.
Jenny a fait ses études en France, mais elle a choisi de revenir investir ici, à Madagascar.
À un moment donné, je me suis dit qu'il était temps que je rentre chez moi pour faire carrière dans mon pays, ce que j'ai fait. Du fait de mon attachement naturel à mon pays, bien évidemment, l'engagement de vouloir le faire avancer, d'apporter ma brique aussi petite soit-elle, et de m'épanouir ainsi.
Pourtant, pour elle, c'est loin d'être simple. Elle a certes la chance d'avoir un peu d'argent par rapport à beaucoup de Malgaches, mais il lui reste beaucoup d'obstacles à franchir.
Il y a différents frais auprès des différentes structures. En tout, j'en avais pour 500 000 arrières, ce qui représentait une certaine somme. Les agents administratifs, ils font exprès de traîner des pattes pour inciter à donner un biais pour accélérer les choses.
À cause de cette lourdeur administrative, beaucoup de Malgaches ne prennent même pas la peine de déclarer leur entreprise. Mais Jenny, elle, tient à faire les choses dans les règles.
On a pour objectif d'être à 100% dans le formel. Il y a beaucoup de personnes à Madagascar qui travaillent sans avoir un contrat de travail, sans cotiser où que ce soit, qui se retrouvent lorsqu'ils sont malades, sans couverture maladie, et lorsqu'ils sont à la retraite, sans pension alimentaire. Oui, nous serons définitivement une entreprise formelle.
Si tout va bien, l'entreprise de Jenny devrait voir le jour en septembre. À 200 km de Tana, dans les montagnes, à Farat Siou, Taïn, 23 ans, est parti de rien. D'abord porteur d'eau, puis vendeur ambulant, il se lance dans les produits laitiers en 2011.
Le prix du lait à Farat Siou était de 600 riyals le litre. Donc j'ai pensé pouvoir aider les paysans en utilisant leur lait pour pouvoir faire du fromage.
C'était un moyen pour moi de gagner plus d'argent et pour les paysans aussi. Mon objectif, c'était d'augmenter leurs revenus.
Taïn rachète le lait des paysans 1300 arrières le litre, bien au-dessus du prix des collecteurs. Sa fabrique de produits laitiers, il l'a construite peu à peu, de manière informelle, avec les moyens du bord. Taïn utilise des gobelets en plastique comme moule et puis il tape dessus pour extraire le fromage avant de le stocker à la cave. Ici, tous les outils sont faits à la main, à l'image de cette presse en bois pour coller les opercules des pots de yaourt.
Les machines qui viennent de Chine sont trop chères. Une presse coûte par exemple 1 million d'arrières. Mais j'ai des amis qui s'y connaissent en électricité, donc je leur ai expliqué ce que je voulais. On a mis nos idées en commun et on a fabriqué celle-là pour 300 000 arrières.
Pour trouver l'argent, Taïn a emprunté des petites sommes aux paysans de la région qui ont bien voulu le soutenir. Et 6 ans après, il a pu les rembourser et son entreprise est officiellement enregistrée.
Ça fait depuis janvier de cette année que j'ai été déclaré officiellement comme une entreprise formelle. Je ne l'ai pas fait avant pour attendre que l'entreprise se lance, être sûr que ça tourne.
Taïn a désormais une 30aine de salariés dans plusieurs villes du pays. Il a ouvert une épicerie à Tana. Ça lui a valu un prix pour l'entrepreneuriat des jeunes Africains. Maintenant, il négocie avec les supermarchés pour pouvoir y vendre ses produits.
Vous êtes toujours à l'écoute de Sous la Terre Rouge, les graines de la relève, une émission réalisée par le QEJ et l'IEP de Madagascar. Jordan Musica, vous recevez aujourd'hui Tsur Razafinpa Hadana, entrepreneur et cofondateur d'Incubon.
Alors nous avons entendu Jenny, cette jeune entrepreneuse dans ce reportage. Elle expliquait qu'elle mettait un point d'honneur à rester dans le formel, dans le légal. Alors on peut le rappeler, ce chiffre, c'est 90% de l'économie malgache qui est informelle. Et vous, Tsur Razafinpa Hadana, qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs que vous accompagnez? Est-ce que vous les encouragez à entrer dans le secteur formel ou alors à rester dans l'informel?
Alors c'est intéressant parce que j'ai un avis totalement opposé à celui de Jenny. Moi je trouve que, et je conseille à toutes les entreprises qui sont avec moi dans Incubon ou dans les groupements dans lesquels je siège, qu'il faut absolument rester dans l'informel pour l'instant. Pourquoi ? Très simplement parce que l'État malgache est incapable de faire des choses correctement. C'est-à-dire que l'impôt, normalement, qu'on paye est redistribué. Et redistribué pourquoi ? Pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, pour faire tout ce qui est normal. Sauf que qu'est-ce qu'on voit ? La redistribution n'existe pas à Madagascar. Donc je suis contre les impôts parce qu'il faut absolument que les entreprises prennent leurs responsabilités face à l'État, un État voleur, un État qui reste dans ce confort-là de prendre les impôts et de s'enrichir personnellement.
Donc face à cet État qui ne fait pas son travail, il faut rester dans l'informel.
Il faut rester dans l'informel et prouver que les entreprises sont le pilier du développement de ce pays. Comment ? En disant, ok, on ne va pas participer à votre pillage intempestif, alors on va voir si ce pays marche encore. Au final, c'est vraiment mettre en avant le fait que sans les entreprises, l'État ne marche pas.
Mais alors, par contre, il n'y a pas que du travail informel, il y a encore 10%. Depuis quelques années, par exemple, les centres d'appel fleurissent à Antananarive. Les géants mondiaux du secteur ouvrent ici des filiales. Les centres d'appel s'occupent, par exemple, du service client de grands journaux français, comme Le Figaro, ou de magasins comme Darty ou Rue du Commerce. Aujourd'hui, plus de 8000 personnes travaillent dans ces call centers. C'est une nouvelle opportunité d'emploi pour les jeunes. Pierre-Antoine Lefort et Ounouna Rakotomav ont constaté que si l'activité se porte bien, eh bien il reste un défi de taille, c'est celui de la formation de ces futurs opérateurs.
Alors vous souhaitez avoir des informations sur la livraison de votre commande, c'est bien ça ?
Au téléphone, une jeune femme guide une cliente française d'un grand site marchand. À côté d'elle, 450 téléopérateurs répondent chaque jour à des milliers d'appels. journaliste depuis Madagascar, Vivetic assure le service client de grands médias français et de sites de vente en ligne. Rad a débuté comme simple téléopérateur et depuis, il a évolué dans la société.
Merci beaucoup.
Je suis sur Régipresse maintenant. Bah, au téléphone, emailing, un retour client direct. Un poste assez spécifique. Considérant que nous sommes malgaches, ici, la stabilité professionnelle, surtout, c'est quelque chose de très important.
Karima Rouche, responsable commercial au sein de Vivetic, se félicite du récent intérêt porté à Madagascar.
Voir arriver nos confrères s'installer à Madagascar, bah, c'était un gage supplémentaire pour nous. Ouais, c'est la destination aujourd'hui. Et de l'avoir compris, nous, il y a 20 ans, ça nous donne une vraie force.
Car depuis plusieurs années, des géants du call center comme Téléperformance ou Outre-mer Télécom se sont installés sur l'île. Jean-Luc Razon est le président du Gothicom, le groupement des professionnels des télécommunications. Et selon lui, Madagascar a de nombreux atouts.
Un niveau de salaire encore bas par rapport à d'autres pays. Puis on a aussi maintenant une connexion Internet qui est assez fiable, puisqu'on a deux sorties de fibre optique maintenant sur Madagascar. Un fuseau horaire, effectivement, qui est de 1 heure donc, pendant les horaires d'été français, puis 2 heures donc, pour les horaires d'hiver.
Il faut aussi ajouter l'absence d'impôts pendant les 2 premières années d'activité, mais une difficulté inattendue s'est présentée pour les entreprises. Stéphanie est cadre dans une autre plateforme. Elle gère 50 d'opérateurs et reçoit régulièrement des candidatures.
C'est facile de trouver en nombre, mais après c'est difficile de trouver en qualité. C'est vrai qu'ils sont doués, ils parlent bien, l'accent, tout ça. Mais à un moment donné, il faudrait qu'ils aient la culture française, par exemple, qui s'intéresse un petit peu aux élections, qui sait Macron. À un moment donné, quand ils vont converser avec les clients francophones, il y aura un blocage forcément, il y aura une limite.
Je vous rappellerai un peu plus tard.
Dans le plus grand immeuble de la capitale, 15 de jeunes sont assis devant leurs écrans.
Et directement après, on enchaîne sur une deuxième conversation.
L'Orange School a été fondée en 2008. Ici, les étudiants apprennent les bases du métier, mais aussi la manière de se comporter en entreprise. Dans la future promotion, Loïc et Ravak, 25 et 27 ans, ils sont attirés par le salaire, plus de 400 000 arrières par mois, soit 120 euros.
Pour commencer dans la vie ici à Madagascar, ce n'est pas assez facile de trouver des emplois. J'aimerais d'abord travailler dans le call center parce que là, ils ont dit que ça gagne beaucoup là-dedans.
En fait, diplôme de bac, ça ne va pas aller loin. Mais en call center, je peux me considérer de quelqu'un qui a réussi dans la vie.
90% des diplômés trouvent un travail à la sortie de la formation. Le gouvernement s'intéresse aussi au secteur et une école publique pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année.
Donc vous changez vos noms en noms français aussi.
Alors Tsiour Razafine Panana, je vous voyais pendant l'écoute de ce reportage. Voilà, vous aviez un peu tilté lorsque l'on parlait des atouts justement de Madagascar, des atouts qui n'en sont pas selon vous, par exemple les salaires faibles.
Alors pour moi, des salaires faibles, ce ne sont pas du tout des atouts. Au contraire, des atouts pour qui? Ça dépend du point de vue. Des atouts pour un patron d'entreprise? Est-ce que c'est ça Madagascar? Non. Madagascar, c'est les 25 millions de personnes dont vous avez parlé au tout début. Madagascar, c'est 92% de personnes qui gagnent moins de 2 euros par jour. C'est ça, Madagascar. Et quel est l'atout pour ces gens-là? Est-ce que c'est travailler de 8h à 18h tous les jours et se faire passer avec des prénoms français et des noms français et travailler dans leur petit casque tous les jours, avec les complaintes des clients occidentaux? C'est ça un travail? Pour moi, c'est pas un travail. C'est un emploi. Donc ok, ils créent des emplois, c'est très bien. Maintenant, créons du travail. C'est quoi créer du travail? C'est créer de la valeur. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils sortent de là, ils s'enrichissent autrement que par leur salaire. Il ne s'agit pas... Alors là, je suis tout à fait contre ce que l'un des employés a dit tout à l'heure. Je me considère comme quelqu'un qui a réussi, a-t-il dit. C'est quoi réussir? Réussir, c'est donc avoir 400 000 arrières, l'équivalent de 120 euros. C'est ça réussir? Mais si c'est ça réussir, si c'est ça l'image qu'on impose de la réussite à Madagascar, il ne faut pas s'étonner que dans 50 ans, ce pays ne bouge pas de là où il est aujourd'hui.
Et par contre, justement, on crée des emplois, mais est-ce qu'il y a un problème de formation ici à Madagascar? Parce que vous, par exemple, vous avez fait vos études en France. Est-ce que c'est ça la solution pour réussir à Madagascar? C'est faire ses études à l'étranger, puis ensuite, pourquoi pas, revenir?
Alors, cette question est très délicate parce que je suis très mal placé pour y répondre, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai été diplômé en France. Mais après 3 ans d'expérience ici à Madagascar, je vois une chose. Je vois qu'il y a une inadéquation totale entre les offres d'emploi et les offres de formation. Donc, il faut absolument voir où est-ce que l'État, où est-ce que les entreprises veulent mettre leurs priorités, et c'est là que les formations doivent être faites. On n'a pas besoin, pour l'instant, malheureusement d'ailleurs, de sociologues, par exemple. Et pourtant, on en a des centaines à l'université Nathan-Narrive. C'est dommage, hein. Moi, je trouve que les sociologues sont très, très utiles. Mais pour l'instant, dans l'état du pays, on n'en a pas besoin. Donc il faut, par exemple, des techniciens agronomes, par exemple. On n'en a pas assez. Et on en forme, mais ils ne sont pas à un niveau adéquat. Donc voilà, il faut réaxer les formations.
Quelle est la stratégie de l'État? Et ça, c'est peut-être une des pistes, justement. Ce sont les étrangers. Les entreprises européennes ne sont pas les seules à investir à Madagascar.
Depuis 2010, en fait, c'est la Chine qui possède le plus d'entreprises ici devant la France.
Et les investisseurs chinois sont présents partout, dans l'hôtellerie, le BTP ou encore l'exploitation de minerais. Et ils créent de l'emploi, mais cela ne profite pas forcément à tout le monde. C'est un reportage de Maxime Noche avec Ounouna Rakotomav et Clémence Dubois-Texero.
Dans cette toute petite salle de classe du quartier chinois de Beourirk, une dizaine de jeunes malgaches apprennent le mandarin tous les samedis. Tous sont là pour des raisons professionnelles. Parmi eux, il y a Barry, il a la vingtaine et travaille pour une société de sécurité malgache.
Nous sommes nombreux dans la société, mais je suis le seul à étudier le mandarin. On a beaucoup de contrats avec des Chinois, comme par exemple l'hôtel Pandore, près de l'aéroport. S'ils ont un problème, ils m'appellent directement parce que je suis le premier responsable et c'est pour ça que j'ai besoin d'étudier le chinois. Surtout qu'avec les interprètes, il arrive qu'ils traduisent ce qu'ils veulent.
Juste à côté, Ange assiste aussi au cours depuis quelques mois. Il est étudiant en médecine, mais apprend le mandarin pour aider sa mère, importatrice de marchandises chinoises.
Ma mère achète des produits en Chine depuis bien longtemps, mais elle doit envoyer des gens là-bas pour le faire. Mais si je parle chinois, je pourrais y aller pour elle. Je n'aurais besoin d'aller en Chine que tous les 3 mois, donc je ne louperai pas beaucoup de cours.
Les cours de mandarin de Tuavn Rasenjahasn sont toujours pleins. La demande a explosé ces dernières années.
C'est le travail qui vient me chercher et pas moi qui cherche du travail. Je refuse souvent des offres parce que je suis déjà occupée.
Un succès qu'elle explique par l'opportunité que représentent les entreprises chinoises à Madagascar.
Normalement, les personnes qui parlent mandarin seront mieux payées parce que les patrons chinois n'auront pas besoin d'interprètes. Le salaire de base est à 800 000, mais je connais des gens qui gagnent 1 500 000 parce qu'ils parlent chinois alors qu'ils n'ont pas de diplôme.
Mais tous ne sont pas aussi enthousiastes à propos de la présence chinoise à Madagascar. Ici, sur un marché du centre-ville, ce vendeur de tissus malgache dit avoir perdu 70% de son chiffre d'affaires depuis 2010. La faute, selon lui, à l'arrivée récente d'investisseurs chinois.
Les Chinois copient des produits malgaches. Par exemple, ça c'est fait en soie, mais eux le font avec des produits synthétiques. Et ils le revendent comme des produits malgaches alors qu'ils viennent de Chine. Par exemple, ce tissu, on le vend 250 000, alors qu'eux le vendent à 100 000. Mais ce n'est pas la même qualité. Leurs produits s'abîment tout de suite, alors que les nôtres durent plusieurs années.
Les importations chinoises à Madagascar ont augmenté de 15% depuis 2008. En mars, les deux pays ont signé un nouvel accord pour réduire encore un peu plus les droits de douane.
Bonjour.
Comment est-ce que vous percevez cette présence chinoise ou cette présence étrangère? Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils investissent ici dans le pays? Ou alors au contraire, est-ce qu'ils brident les initiatives de malgaches?
Non, je pense qu'il faut surtout pas être dans un protectionnisme primaire. Il faut absolument être dans l'ouverture. On est une île et paradoxalement, une île est ouverte sur le monde, mais Madagascar est l'un des pays les plus fermés au monde. La venue des Chinois ici à Madagascar, des opérateurs chinois, peut éventuellement être un bon pour le pays. Si et seulement si il y a des cadres. Malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre et donc il y a des copies. Il n'y a pas de cadre et donc il y a de l'importation sauvage. Il n'y a pas de cadre et donc un marchand X va vendre un produit qui coûte, on va dire, 1 euro. Il le vend à perte à 30 centimes. Et il achète les produits malgaches qui coûtent 2 euros et il le vend à 5 euros. C'est ça pour détruire un marché. C'est très simple. Cette manière de faire-là, elle est devenue un réflexe pour certains opérateurs véreux qui s'installe à Madagascar.
Si je vous comprends bien, si relève il y a, elle ne viendra pas par le haut, mais plutôt par le bas. Et justement, vous qui êtes un exemple de réussite, quel serait votre message justement à ces jeunes malgaches pour qu'ils osent se lancer? Comment est-ce que vous pouvez les motiver, leur donner confiance justement?
Peut-être que mon message se résume à quelques phrases. La première, c'est qu'à Madagascar, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, il y a tout à faire. Nous, jeunes malgaches, on n'a rien. Quand on n'a rien, on n'a rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. C'est ça le message. Si on a ça dans la tête, rien ne peut nous arrêter. Rien.
Merci Tsur Razafin Panana d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On le rappelle, vous êtes le cofondateur d'Incubon, ici à Madagascar. Et cette émission touche à sa fin, Clotilde.
Mais vous pouvez retrouver nos reporters dans deux autres épisodes, l'un sur les campagnes malgaches et l'autre sur l'héritage culturel. Mille merci aux étudiants de l'IEP, Balik, Ununa, Aurieli, Salah, Valinsou, Valissoua. Nous remercions également Aline Ranaïvozon et Bernard Conchon pour leur encadrement. Merci à notre technicien Jean-Christophe Galen.
Sous la terre rouge,
sous la terre rouge,
les graines de la relève.
Les graines de la relève.